Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons donc sur BeMoine une conférence très actuelle puisqu'elle vise à vous présenter maintenant quelques-unes des dernières évolutions des outils métiers pour la conception et l'architecture. Alors l'idée est de vous proposer ici un plateau très complémentaire de solutions, mais aussi des tendances à venir. Cette conférence se déroulera donc en deux temps, avec tout d'abord des présentations de chaque intervenant, puis en fin de session, selon le temps qui nous restera, un échange entre les trois et moi-même. Je suis donc en compagnie aujourd'hui de Lumna Scali, qui s'identifie. Vous êtes en charge des services bâtiments Isover Placo, donc chez Saint-Gobain. De Marie-Laïla Simon, architecte chez Autodesk France et en charge tout plus particulièrement de Space Maker. Et puis Vincent Frérébo, qui est responsable du développement commercial chez Leica Geosystems. Alors pour commencer, il faut généralement planter le décor, si je peux dire, et exactement le relever. C'est à la fois utile pour un projet de construction neuve et encore plus pour de la rénovation-réhabilitation. Et donc Vincent, c'est à vous de prendre la main pour une présentation donc, de 10 minutes.
Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Bonjour, donc je suis Vincent Frérébo, je suis donc responsable du développement commercial chez Leica Geosystems. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'évolution des outils de métier donc pour la conception et l'architecture. Donc tout démarre au départ par un relevé sur le terrain de l'existant. C'est ce qu'on va appeler la capture de la réalité. Et le métier a changé suivant ces dernières années. Hop, ça n'a pas envie. Stack. Alors, je reviens un peu sur cette partie. Donc, sur le relevé de terrain, historiquement, les clients travaillaient principalement, la plupart des utilisateurs, utilisaient du mètre arrivant, le disto et une feuille en papier avec un crayon où on reporte dessus ces triangulations, ces mesures. L'évolution a fait que, au départ, ces solutions historiques étaient source d'erreurs, d'oubli, et on passait beaucoup de temps à faire son relevé. Et on avait un bon paquet d'incertitudes, surtout lorsqu'on reportait sur son papier un 8 qui ressemblait à un 9, un 6 ou un 0. Et souvent, les clients se posent beaucoup de questions de ce côté-là. Ce qui s'est passé avec l'évolution, c'est qu'on a réduit, voire supprimé, la totalité de ces erreurs qu'on pourrait avoir sur le terrain par le biais de solutions d'acquisition sur le terrain. Donc on va parler de scanner 3D, on va parler de numérisation 3D, on va parler de système aérien, de scan terrestre, scan mobile, donc il y a plein de termes un peu techniques. Mais l'idée, pour présenter un peu cette transition, je vais parler d'un client, c'est la société 2CAO, donc un gros cabinet d'architectes basé sur Reims, qui avait depuis quelques années avait l'habitude de faire du relevé. Donc là, on va parler par exemple d'un cas concret d'un client, une maison de retraite sur 4 niveaux. On verra un peu les plans à la fin, vous verrez que c'était très compliqué parce qu'en fin de compte, on avait beaucoup de petites pièces. C'est un bâtiment où il y avait plein de petites pièces, des salles de bain, des toilettes et ainsi de suite pour les différents résidents. Le besoin, là, c'était de faire un relevé intérieur et extérieur. Donc imaginez faire une triangulation avec son mètre à ruban entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de demi-niveaux, comme je vous disais. Il y avait aussi de la charpente ancienne sur ce projet, donc des poutres relativement tordues. Donc là, pour le mesurer en traditionnel, c'est quasiment impossible. Il y avait 4 800 m² de bâtiments à relever et beaucoup de détails. Le client était vraiment... Il y avait des moulures, il y avait des choses un peu spécifiques et là, il y avait besoin d'atteindre un niveau de détail important. L'estimation du client, je vous donnerai ses références, hein, il est sur le BeMoine, vous pourrez discuter avec lui, c'est que si c'était un travail traditionnel, et bien il aurait passé 2 semaines minimum avec beaucoup de transpiration, parce qu'il fallait reboucler à chaque fois, parce que vu la géométrie du bâtiment, et il envoyait plusieurs personnes sur le terrain. Ce qui s'est passé derrière moi, juste après, et donc après 2 jours de relevé avec une seule personne, on a la possibilité avec un scanner 3D de relever l'environnement, de fixer la scène en 3 dimensions. Grosso modo, un scanner, hein, c'est comme vous, hein. Tout ce que vous voyez à l'œil, le scanner l'enregistre en 3D. Et donc, ils ont utilisé ce scanner 3D pour relever directement tout l'ensemble du bâtiment. Le recalage se fait tranquillement et après derrière on récupère ce nuage de points au format RCP pour densité K et on va pouvoir pousser après derrière ce nuage de points vers Revit par exemple, les solutions Autodesk. Et après 15 jours de travail, on obtient une maquette numérique qui colle à la réalité, qui est collé sur le nuage de points, qui est, on se sert du nuage de points pour décalquer par-dessus, pour redessiner l'environnement. Et on va récupérer ce type d'environnement. Donc on voit la maquette est quand même assez costaud, il y a du détail, il y a des finitions sur les pierres à l'extérieur, il y a différents types de façades. Lorsqu'on voit par exemple la vue transversale, bah on voit qu'il y a des demi-niveaux et ainsi de suite. Et surtout, en vue de dessus, on s'aperçoit que bah, la géométrie de certaines pièces, on n'est pas tout à fait sur du carré. Voilà un peu mon introduction sur la partie du relevé. Et s'il y a la moindre question, on est sur le BIM World.
Toujours pas. Ah voilà.
Ça y est.
Merci Vincent pour cette introduction. Donc ce planter de décor, comme on peut dire, surtout en Savoie. Alors quand on pense de, quand on parle de conception architecturale, on pense forcément à des logiciels de conception comme Revit. Mais Marie-Laïla va nous dire qu'il en a beaucoup d'autres qui complètent désormais le portfolio d'Autodesk. Et c'est Marie-Laïla. Pardon.
Merci. Oui, effectivement, c'est Marie-Laïla Simon, je me présente. Donc moi, je suis architecte de formation et j'ai rejoint Autodesk très récemment avec l'acquisition de Spacemaker il y a 2 ans. Je participe en fait à tout le développement du marché français et de toute l'Europe du Sud pour Autodesk, spécialisée donc dans Spacemaker. Et en fait, je remplace au pied levé Emmanuel Di Giacomo, donc je suis navrée. J'essaierai de remplir ces grandes chaussures, comme on dit, du mieux que je peux. Mais donc l'idée, c'est de vous parler aujourd'hui du numérique et du BIM. Évidemment, chez Autodesk, on est assez conscient de toutes les difficultés environnementales et les ambitions très fortes avec la COP26 pour les maîtrises d'œuvre. Et on a extrêmement conscience, du coup, de la nécessité de développer des outils qui puissent aider les architectes de ce point de vue-là et dans cette direction-là. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une liste non exhaustive de plein d'outils qu'on considère comme le futur pour l'architecture. Et puis, évidemment, je suis disponible pour en parler autant que vous le souhaitez, parce que c'est une passion pour moi. Donc, je vais démarrer, évidemment, par Spacemaker. Je vois que ça ne se met pas en route, mon diaporama.
C'est la bonne.
Les aléas du direct, donc. Ouais, futur des outils de l'architecture, mais PowerPoint, c'est toujours pas évident.
Trop de conférences sur BIM World et trop de présentations. C'est bon. Et c'est parfait.
Parfait. Donc je reprends. Donc le premier outil dont je vais vous parler, c'est bien évidemment Spacemaker. C'est un outil très puissant qui permet en fait très en amont des projets de réfléchir à plus grande échelle. L'idée, c'est vraiment de démarrer un projet sur la plateforme. C'est un outil SaaS, ce qui est aussi assez révolutionnaire, puisqu'en fait, fini, contrôle S, tout est directement sur Internet. Et il vous donne accès, grâce à des outils très performants d'intelligence artificielle, à de l'analyse environnementale, et vous permet en fait assez rapidement de créer de la volumétrie dans un contexte 3D qui est automatiquement pris en charge sur la plateforme, et qui vous permet assez rapidement de faire des études de faisabilité sur vos projets. Dans un autre contexte, évidemment, on parle du generative design. Il y a des technologies assez puissantes, telles que Dynamo, mais... Pardon, la vidéo ne se met pas en place, décidément. Alors ça, c'est... Bon, alors c'est dommage parce que ça, c'est une vidéo qui est assez intéressante. Je vais discuter et puis c'est pas grave, j'espère que l'image va arriver. Mais globalement, l'idée, c'est d'utiliser le generative design. Non, c'est la prochaine. C'est pas grave. Je vais... Pas de souci. En fait, on utilise... L'intérêt du generative design, c'est d'utiliser différents paramètres et de critères de succès et ensuite de demander à la machine de faire plusieurs propositions qui vont essayer de mettre en place le maximum et répondre aux contraintes qu'on lui a données. Alors évidemment, c'est possible sur Spacemaker, c'est aussi possible sur la vidéo que je voulais vous montrer ici, mais ça permet en fait de répondre à plein de contraintes qui peuvent être très difficiles de mettre en place. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est grâce à Autodesk Insight. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de comprendre les performances énergétiques de votre bâtiment. Donc vous voyez là, on a un petit widget sur la gauche qui vous donne en fait en temps réel toutes vos données sur l'énergie qui peuvent être utilisées. Et ça vous permet en fait de prendre des bonnes décisions par rapport au développement de votre projet, même à une échelle qui avance. Comme vous le verrez, tous les outils que je vous montre là, on va aller un petit peu plus loin dans l'échelle. Et surtout pour comprendre en fait la consommation d'énergie de ces projets-là. Une nouvelle façon aussi de voir le generative design, on peut le voir à très grande échelle sur une parcelle, mais on peut aussi le voir à l'échelle d'une pièce. Là, vous le voyez sur une petite vidéo qui montre en fait les différentes optimisations de multi-paramètres qu'on va pouvoir regarder. Par exemple, là, c'est pour un bureau, donc en fonction du bruit, de la lumière, de la vue, vous allez pouvoir adapter en fait et comprendre quelle est la meilleure organisation possible de l'espace par rapport à vos critères et les choses qui sont importantes pour vous. Enfin, le generative design dans Revit. Et là, pareil, c'est un niveau beaucoup plus avancé de développement de projet. Vous pouvez utiliser des scripts tels Dynamo pour comprendre un petit peu quels sont les critères qui vous intéressent. Donc là, il me semble que c'est pour un bureau et de savoir comment est-ce l'orientation qui va être le plus intéressante et la plus pertinente par rapport à vos besoins. Globalement, ce qu'on comprend, et donc là, vous voyez toutes les réponses qui sont mises à disposition et vous pouvez choisir en fait quelles vont être les meilleures solutions en fonction des diverses contraintes. Évidemment, il n'y a aucune solution qui est parfaite, mais vraiment, c'est l'idée de l'architecte de pouvoir voir et observer toutes ces solutions-là et puis de comprendre lesquelles sont les plus intéressantes et les plus pertinentes par rapport à ces projets. Alors évidemment, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé du generative design. Encore une vidéo qui ne fonctionne pas, décidément. Mais évidemment, les outils BIM ont une très grande importance puisque en fait, ça permet à l'architecte de pouvoir communiquer très rapidement leur design, de aussi collaborer avec diverses partenaires, que ce soit les bureaux d'études, etc. Et comme en fait le BIM permet d'avoir des maquettes qui sont complètement géoréférencées, ça vous donne accès à une multitude d'informations environnementales, que ce soit sur des études de vent, d'ensoleillement, etc., qui vous permet en fait d'améliorer et constamment les qualités de votre bâtiment. Je suis assez frustrée que cette vidéo ne marche pas non plus. Voilà, je passe suite aux problèmes techniques, pas de problème. En tout cas, vous l'avez compris, le BIM, l'intelligence artificielle, le generative design, tout ça, ce sont des outils qui sont à disposition et qui déjà sont possibles et c'est facile pour les architectes de s'en emparer. Ce que je vous invite à faire avec la plus grande joie, parce qu'en fait, ça donne un vrai levier aux équipes de maîtrise d'œuvre de maîtriser leur design et de maîtriser les outils qui sont à disposition. En fait, on en parlera, j'espère, mais je vois le temps qui passe. Donc, je vais passer...
la parole, merci Marie-Laïa pour cette présentation. Donc, Autodesk, c'est au stand G30H31 pour voir et découvrir toutes ces différentes vidéos. Il ne faut pas casser le micro non plus après l'image. Si jamais on a encore un problème de micro, ça ne va pas le faire. Alors, notre troisième présentation, vous allez le voir, elle est un peu plus en apparence éloignée de la phase de conception que du chantier. Mais Lumna Scali va nous prouver le contraire et va nous ramener justement à cette phase de conception. Et c'est à vous.
Alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Loubna Scali, je suis responsable du développement de services BIM pour deux marques industrielles qui sont placo isovert. On voit beaucoup sur ce type de salon beaucoup d'éditeurs. On a moins l'habitude de voir des industriels, mais je vais essayer de vous montrer l'approche qu'on a pu amener sur le sujet du BIM en tant qu'industriel. Je commence par présenter déjà les deux marques pour ceux qui ne connaissent pas. Isovert et Placo sont deux marques du groupe Saint-Gobain. Isovert étant le leader français de l'isolation durable, avec des solutions d'isolation type laine minérale, membrane d'étanchéité, ossature et accessoires. Placoplate, ça va être le leader français du confort intérieur avec des solutions techniques de type cloison, doublage ou plafond. Donc ce sont des solutions à base de plaques de plâtre pour l'aménagement intérieur. En tant qu'industriel, on s'est posé la question depuis plusieurs années maintenant sur quel rôle on peut jouer dans cette transition numérique qui est le BIM. Et on a essayé de mettre en place en fait une approche assez pragmatique pour accompagner l'ensemble des acteurs. Donc ça va de la maîtrise d'ouvrage jusqu'au poseur, le plaquiste, plafiste, sur les phases d'exécution, en passant par la maîtrise d'œuvre et les entreprises générales. Donc ce qui va couvrir l'ensemble de ces acteurs, ça sera vraiment l'aspect data et information qu'on veut amener dans les projets, dans les maquettes numériques. Sur un aspect un peu plus exécution, on va se centrer sur une approche bureau d'études en accompagnement notamment des plaquistes et plafistes. On a développé aussi des plugins dont je vais parler un petit peu plus tard, et on a aussi une approche Lean qui vient aussi compléter cette offre BIM. On accompagne également notamment nos poseurs, nos plaquistes par de la formation, parce que c'est aujourd'hui un public qui est moins digitalisé que les architectes ou les bureaux d'études et qui s'adresse à nous pour de l'accompagnement, de la formation sur des projets quand il y a des appels d'offres sur la base d'une maquette BIM. Donc on a aujourd'hui une palette de services complètes avec des outils, de l'accompagnement, de la formation et du bureau d'études. Pour aller un petit peu plus dans le détail, donc sur la partie data information que j'introduisais un peu plus tôt, là où on va couvrir l'ensemble de la chaîne de la construction, on va trouver notamment un outil qui est un plugin qui s'appelle PrescriBIM, qui se plug aujourd'hui sur le logiciel Revit Autodesk, donc d'où la complémentarité avec la présentation de ma collègue plus tôt. Donc ce plugin, il va vous apporter toute l'information dont vous avez besoin pour modéliser des ouvrages type cloison, doublage ou plafond. Ça va être un plugin, comme je disais, intégré à Revit aujourd'hui. Demain, on sera aussi sur Archicad pour couvrir un peu les 80-20 sur le sujet par rapport aux architectes. On va amener un catalogue complet pour le second œuvre. Ça sera des données, enfin c'est déjà le cas, ce sont des données qui sont lues directement dans nos bases de données Placo Isovert, donc on vous garantit une information qui est à jour, qui est distribuée directement par l'industriel. Et puis on vous donne la main sur le niveau d'information que vous voulez mettre dans vos objets. Donc vous avez la possibilité de choisir les paramètres que vous intégrez ou pas dans votre projet, type performance thermique, mécanique, ainsi de suite. L'autre approche sur la partie exécution, ça va être, comme je le disais, par un accompagnement, par un bureau d'études qui va pouvoir s'occuper de l'ensemble de la phase exécution en accompagnement du plaquiste de la phase de réponse à appel d'offres jusqu'à livraison d'un DOE à la fin du chantier. Donc on peut faire de la modélisation, des dossiers techniques, du calpinage, des quantitatifs et du suivi de chantier, coordination avec les autres corps d'État. Toujours dans cet aspect exécution, on a développé aussi un outil qui s'appelle PlacoBIM, qui est utilisé chez nous en interne par le bureau d'études, mais qui est aussi mis entre les mains des plaquistes qui souhaitent s'équiper. Et c'est un outil qui va aller vraiment dans le détail des découpes, des plaques, des rails, des montants pour aller dans un load très élevé dans la partie exécution et qui va vraiment automatiser un certain nombre de tâches pour la partie exécution. On est toujours sur un plugin qui est sur Revit, qui va automatiser la génération de l'ensemble des dossiers techniques du DAO jusqu'au DEE, en allant chercher l'ensemble de l'information, encore une fois, sur la base de données Isover Placo, à jour, avec l'ensemble des certifications, avis techniques, FDES ou toute autre fiche technique dont on a besoin pour documenter le projet. On a une partie très intéressante aussi et qui est le cœur de cet outil, c'est la partie calpinage. Comme vous voyez sur l'illustration, c'est vraiment une intelligence qui a été développée sur ce plugin-là qui permet en fait de passer du mur avec une épaisseur vers quelque chose d'un load très, très avancé avec la représentation de toutes les découpes, plaques, rails et montants. Ce qui permet de générer un quantitatif très précis pour le chantier, pour les achats et pouvoir suivre la gestion du chantier aussi par zone. Et il y a aussi un aspect logistique qui vient se greffer. Et enfin, le dernier aspect, c'est pouvoir générer des plans de repérage ou d'exécution très précis sur la base de ce calpinage. Et pour finir, donc la dernière offre qui vient compléter cette offre sur l'aspect exécution, c'est notre offre de Lean. On parle chez nous de BIM to Lean, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une maquette numérique, faire tourner nos outils ou faire intervenir notre bureau d'études partir de la maquette numérique, calculer toutes les découpes et avoir une liste de découpes qui passe en atelier pour pouvoir préparer en amont le chantier. C'est une sorte de palette préfabriquée, on va dire, avec soit simplement le kit-in qui consiste à faire le panachage des plaques par palette. Chaque palette, allant dans une pièce spécifique. Donc ça, c'est l'offre Lean Kit et qui peut être complétée par l'offre Lean Cut où on va venir soit découper seulement en hauteur, soit découper seulement en largeur les plaques, soit les deux, et puis préparer le chantier en amont pour livrer des palettes et des plaques prédécoupées pour le chantier. Voilà donc.
Merci pour cette troisième présentation et puis pour vos trois présentations qui, comme je le disais, sont très complémentaires. Vous allez vous mettre ici, je vais vous passer le micro. Moi, je vais mettre de l'autre côté parce qu'il n'y a plus qu'un micro pour nous quatre. Alors, elle n'est pas ici. Donc, des présentations qui ont permis de révéler quelques points complémentaires ou communs, en tout cas. C'est des évolutions que nous recherchions à travers cette conférence. L'un des premiers, moi, que je peux relever, c'est ce travail qui a été fait au fur et à mesure par les éditeurs et les fabricants et les industriels et éditeurs à la fois, puisque finalement, vous avez une double casquette sur ce coup-là. Le travail important qui a été fait sur l'ergonomie. Alors, je voulais savoir, en fait, comment vous travaillez les uns et les autres. Alors, peut-être qu'on va commencer par, cette fois-ci, la solution la moins éditeur, en fait, du côté de Leica. Comment est-ce que vous travaillez pour faire en sorte que vous puissiez travailler avec en appuyant sur un seul bouton pour numériser un ensemble, une pièce, un bâtiment ?
Alors, donc, en fin de compte, c'est quand même un gros travail d'écoute des besoins de nos clients, hein. Aujourd'hui, c'est nos clients qui nous font vivre, donc il est très important d'écouter ce qui vient du terrain avec des trucs et astuces, peut-être des clients qui nous disent « c'est dommage que vous n'ayez pas ça, ça serait bien de rajouter ça ». Et en fin de compte, c'est tout un travail au niveau du groupe, Leica, de recenser ses besoins et chaque pays faire remonter des informations. Et là, après, derrière, il y a tout un travail de design aussi. Hein. Moi, sur mon polo, vous voyez, c'est écrit BLK, je suis habillé en noir. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu le design des BLK. Mais on a toute une philosophie de simplification et l'idée c'est que les utilisateurs soit de moins en moins, ça soit de moins en moins compliqué pour eux à utiliser et à traiter le nuage de points aussi derrière. Hmm.
Chez Autodesk, sans avoir forcément de polo noir et de lettres blanches sur le polo, comment vous travaillez en fait pour cette ergonomie, faciliter la prise en main des logiciels?
Nous, en fait, c'est aussi très important, évidemment, de s'adapter au public. Et je pense que vous l'avez vu sur les diverses vidéos, même le design et le style des logiciels ou des solutions ne sont pas du tout les mêmes suivant l'échelle à laquelle on s'adresse. Donc, par exemple, Spacemaker ne va pas du tout avoir le même style que Revit, aussi parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes contraintes et aux mêmes besoins. Et l'ergonomie de l'utilisation de l'outil, elle doit être vraiment adaptée à l'utilisation qu'on en fait. Un logiciel trop compliqué sur des phases très en amont peut ralentir des process alors que ce n'est pas le but.
Alors, ça, vous allez peut-être, on va essayer de garder la main et je vais doubler les questions en fait. Hein, vous, tout à l'heure, vous avez présenté donc Spacemaker et surtout en fait le Generative Design. Quand on se souvient en fait il y a quelques années en arrière, la crainte du BIM en fait c'était de frustrer le trait, en fait frustrer la créativité de l'architecte. Là, vous êtes en train de nous dire que vous voulez vous adapter à l'utilisateur et en même temps, vous leur donnez à travers tout un tas d'intelligences augmentées, en quelque sorte, les capacités d'aller plus loin ou de les accompagner ou de leur tenir le stylo. C'est quoi, en fait, exactement le bon terme, en fait, qu'il faut employer là-dessus?
Alors, j'adore cette question parce qu'on me la pose très régulièrement et je suis ravie de pouvoir y répondre. Effectivement, le generative design, c'est en aucun cas un outil magique où on clique sur un bouton et on a un projet qui fonctionne. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir un petit peu et de stimuler la créativité des utilisateurs et donc des architectes et de proposer une multitude de solutions, mais en aucun cas de pousser vers une solution versus une autre. En fait, c'est vraiment l'utilisateur qui, lui, a les clés des critères qui sont positifs ou négatifs pour lui, en fonction de multiples contraintes qu'évidemment une machine n'a pas. Je pense pour les architectes notamment, la politique, l'histoire, la culture, le goût, la subjectivité de tout ça fait que le generative design, en fait, en aucun cas ne tient le crayon, mais est vraiment là pour booster la créativité et offrir en fait une multitude de solutions par lequel choisir, améliorer, développer, etc.
Lumna, l'inverse, vous voulez assister grâce à l'intelligence qui est embarquée dans ces logiciels-là, d'aider au maximum en fait pour justement économiser du matériau, faciliter en fait des choix des matériaux également.
Tout à fait. Je reviendrai aussi sur l'aspect ergonomie. Parce que le sujet m'intéresse également. Comme je l'introduisais un peu plus tôt, on est en face, nous de notre côté, à un public vraiment très peu digitalisé, parce qu'on est vraiment sur la fin de la chaîne, sur la partie exécution, avec des metteurs en œuvre qui sont très peu digitalisés. Et donc, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment apporter des outils les plus simples possibles. Donc, même en allant sur un logiciel comme Revit, le plugin qu'on développe, c'est vraiment pour rendre Revit plus accessible à ce type de profil qui se met tout juste au BIM, qui n'a pas cette culture, etc. Et ça passe par une approche de co-construction avec les utilisateurs qui sont vraiment, qui nous aident en fait dans cette démarche en fait de développement des outils pour qu'ils soient les plus faciles, les plus accessibles pour eux. Et donc il y a effectivement également la partie où on automatise un maximum des tâches qui peuvent prendre beaucoup de temps, qui sont comme la partie calpinage, pour que ça soit aussi une approche de productivité au-delà du BIM pour les utilisateurs.
Cette approche en fait d'automatisation des tâches, d'intelligence, Vincent, aller plus vite, gagner 2 semaines finalement, c'est ça à peu près hein, sur ce cabinet d'architecte, 2 semaines sur la numérisation d'un bâtiment quand même relativement conséquent. Ça se développe comment en fait finalement cette intelligence là?
Alors là c'est un peu le
je crois que c'est Leica, vous avez plus de 20% de votre chiffre 12 qui est déjà pas mal,
c'est énorme,
qui est consacré à la R&D.
Oui, tout à fait. Alors il y a toute une partie R&D, donc on a plusieurs centres de recherche à travers le monde hein, en fonction du matériel, des logiciels et ainsi de suite. Et sur le scanner, ça a toujours été de gagner du temps, de gagner énormément de temps sur la prise de mesure. Les premiers scanners, il y a presque 20 ans, pour ceux qui ont connu, c'est qu'on lançait deux scans, on essayait de les recaler et ça mettait, on avait le temps d'aller manger hein, pour recaler deux scans. Maintenant, c'est, je suis sur le terrain, je suis en live, j'appuie sur mes boutons et c'est directement l'intelligence qui est à l'intérieur du scanner qui lui permet de caler directement les scans. Après, la reconstruction du nuage de points pour aller envoyer, par exemple, sur de la maquette numérique, on a aussi travaillé sur des solutions d'intelligence artificielle où on a la possibilité de modéliser en automatique un nuage de points en maquette numérique avec, on va dire, aujourd'hui 80% du travail qui est déjà fait en automatique. Tout ça parce qu'on a rajouté de l'intelligence artificielle derrière. On a d'autres logiciels où, par exemple, je veux sortir une MNT, la surface topographique, par exemple, d'un terrain, ça me prend 10 secondes. Je clique sur un bouton, le logiciel calcule, il évacue tout ce qui est arbre, végétation et ainsi de suite, et on récupère le terrain en moins de 10 secondes.
Et toutes ces données, elles sont stockées où après? Parce que derrière, il y a toujours la problématique du volume, de la sécurité aussi de ces données et des échanges qui sont à faire en fait, avec les autres acteurs de la construction.
Alors là, ça va être très clair. Tout le traitement des scans, du nuage de points, de la transformation de maquette numérique, tout ça se fait en local. Donc déjà, si on est sur un PC sécurisé dans une cage de Faraday complètement isolée, il n'y a aucun problème. Hein, ça peut, y a rien qui sort. Après, derrière, la partie où il va y avoir un peu de sortie de données à la fin, c'est principalement lorsqu'on va mettre en place des viewers. Donc on a des viewers qui existent soit en local, soit en ligne, qui vont permettre en fin de compte de partager le nuage de points, les photos, le reportage photo qu'on a fait sur le terrain, la documentation et ainsi de suite.
Marie Laïa, là on a vu en fait qu'il y avait des problématiques pour pouvoir juste lire des données parce que l'ordinateur n'est pas forcément adapté à ça, en fait, à la taille de la vidéo. Toutes ces données, toute cette intelligence, elle fait que derrière on a besoin de machines de plus en plus performantes. Comment est-ce que vous vous adaptez ou comment est-ce que vous freinez peut-être déporter en fait les calculs sur des serveurs distants? Comment est-ce que ça travaille tout ça?
Effectivement, en fait, nous, la solution qu'on propose, c'est d'être sur le cloud. Et je vais parler à nouveau de Spacemaker, mais Spacemaker, tous les calculs se font dans le cloud, ce qui est super parce qu'en fait, il suffit d'avoir une connexion Internet et un petit téléphone, ordinateur portable. Et en fait, tous les calculs sont faits à distance, ce qui vous permet en fait d'avoir accès à des technologies très puissantes de l'intelligence artificielle. Ce qui vous permet d'avoir en temps réel des études d'ensoleillement, de vent, d'acoustique sur vos modèles et de les avoir à disposition. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en rendez-vous client, vous pouvez les faire en live. Vous êtes dans une réunion en commune, vous pouvez les montrer directement à monsieur le maire. Et en fait, ça permet, un, d'avoir une rapidité de modélisation et d'intégration de ces données-là, mais aussi une collaboration qui est rendue beaucoup plus simple puisque les échanges de fichiers V3, V4, on se perd, etc. Là, tout est mis à disposition, on n'a plus qu'à s'enregistrer et on est directement sur le modèle.
Donc à récupérer les nuages de points de Vincent directement, à les travailler chez vous. Lumna peut aussi les récupérer et les travailler dans son soft. C'est comme ça que ça peut se dérouler.
C'est ça.
Chez Saint-Gobain, chez Isovert Placo, il y a des solutions qui sont mises en place pour justement héberger des données, les faire travailler par d'autres peut-être, des bureaux d'études internes éventuellement.
C'est une idée qu'on a, on va dire. On est encore au début de l'histoire quelque part et on voit encore une grande feuille de route à dérouler sur plein de sujets, notamment sur la partie collaboration. On est en train de développer une partie bureau d'études actuellement qui travaille avec d'autres bureaux d'études externes qui collaborent sur des projets avec des plaquistes, des entreprises générales sur le sujet du lean avec les ateliers de découpe, etc. Et on voit très bien le potentiel d'une plateforme pour collaborer et avoir des données partagées effectivement.
Et comment ça se passe en fait? Parce que dans l'évolution, il y a une évolution aussi du modèle économique. Quel est le modèle économique de votre côté en fait? C'est un service que vous offrez aux plaquistes, aux architectes, ça fait partie d'un forfait? Comment ça se passe à ce point de vue-là?
Alors il y a une partie de gratuité parce que comment on voit les choses aujourd'hui, c'est que il y a une partie catalogue BIM qui correspond à digitaliser nos catalogues papier. On ne vendait pas nos catalogues papier. Il n'y a pas de raison qu'on vous vende un plugin avec notre bibliothèque aujourd'hui. Par contre, sur les parties où on va aller chercher un peu plus d'intelligence, de productivité pour l'utilisateur, comme l'outil PlacoBIM ou le service Lean, c'est là où on peut avoir effectivement de la vente d'outils ou de services.
Vincent, est-ce que de la même manière, vous aussi, en fait, vous proposez ces solutions d'accompagnement en fait, financier, de numérisation directement chez Leica?
Oui, tout à fait. On a différents partenaires sur lesquels on s'appuie financiers pour pouvoir accompagner nos clients sur les financements. Ça, c'est normal, hein, parce que derrière, quand on a envie de s'acheter une Ferrari, il faut pouvoir le financer derrière, donc on a des aides. Après, derrière, on aide aussi nos clients à réfléchir aussi sur le retour sur l'investissement. On va analyser quelles sont les problématiques aujourd'hui sur un relevé, qu'est-ce qui coûte cher au client aujourd'hui. Et l'idée, c'est de lui apporter une solution sur comment et avec quel scanner, avec quel logiciel, quelle suite de logiciel derrière, comment on va pouvoir répondre à son besoin.
Et la mise en œuvre en fait de tout ce choix en fait de panel de solutions, donc vous avez des scanners à main, vous avez des scanners en fait des stations totales. Comment est-ce que vous guidez finalement les utilisateurs? En fonction de quoi est-ce qu'ils sont guidés vers l'une ou l'autre de ces choix de solutions?
Alors là, c'est bien sûr, c'est toujours un peu comme les journées d'aujourd'hui, hein, sur le salon. On a des échanges hein, pendant que vous venez nous voir. Et l'idée, en fin de compte, c'est que le client vient nous exposer un problème, souvent même plusieurs problèmes, et on va essayer de trouver quel est le meilleur scanner qui va, par exemple, le meilleur outil. Entre un scanner fixe, un scanner à main, un scanner monté sur une voiture, monté sur un drone. On va réfléchir déjà à cette problématique-là. Et après, en fonction du livrable qu'attend le client, c'est-à-dire est-ce que c'est une maquette numérique sur Revit ou un plan 2D sur AutoCAD, la philosophie va être très différente. Donc, du fait que mon rôle, c'est d'être une vraie éponge et de choper toutes les informations, tous les trucs et astuces de mes clients pour qu'après, derrière, lorsque je tombe en face d'un prospect, qui n'est pas encore rentré dans la famille, l'idée c'est de lui expliquer ça marche, cette chaîne numérique est maîtrisée. Et là, au moins, vous rentrerez dans vos frais et vous aurez un vrai retour sur investissement.
Et quelle est la prochaine étape? Là, on parle d'évolution. Quelle est la prochaine étape? Quelles sont les
prochaines? Si je vous le dis, je vais être obligé de vous tuer. Mais
et puis tous ceux qui
au niveau des évolutions, il y a deux philosophies. On reste sur des scanners terrestres, principalement, qui restent le cœur de notre marché. Là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin, plus vite, plus précis. Après, derrière, de l'autre côté, on a la gamme mobile, où on a une précision qui est un peu plus large. Là, on est de l'ordre du centimètre. L'idée, c'est d'aller découvrir des zones très, très rapidement et d'avoir une précision toujours qui soit maîtrisée. Et avec toujours cette idée de simplifier l'utilisation.
Marie Layal, les prochaines évolutions que l'on pourrait avoir sur ce marché-là, on en parle, on parle d'intelligence augmentée, artificielle, on parle de conception générative. C'est quoi la prochaine étape?
C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, effectivement, en fait, l'intelligence artificielle, le generative design, en fait, je pense que la vision, c'est de voir où est-ce qu'elle va s'implanter. Parce qu'on l'a vu, on s'implante en fait à plein de niveaux du développement de projet. Et c'est d'essayer de donner le plus de leviers possible aux maîtrises d'œuvre pour pouvoir intégrer ces outils très puissants aussi facilement que possible. Et donc, ça s'illustre dans plein de choses. Je pense qu'une une des choses qui vont arriver vraiment pour moi, c'est le cloud. C'est-à-dire que d'avoir tout sur Internet disponible, de pouvoir s'échanger très rapidement de l'information en temps réel, c'est quelque chose qui je pense, est le futur.
L'échange entre les différents acteurs qui n'ont pas grand-chose à voir, entre guillemets, à part l'acte de construire ensemble, qui n'utilisent pas forcément les mêmes outils, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux, soit de prise en main, mais on a vu en fait que là, par exemple, Revit était cité dans les trois cas. Donc, cette communication fait partie en fait du progrès encore attendu.
Oui, bien sûr. Évidemment, la crise avec le confinement nous a vraiment appris ça. Notre devoir de devoir travailler ensemble, même si on ne peut pas être physiquement ensemble, c'est quelque chose qui va se développer encore plus.
Lumna, comment est-ce que vous travaillez justement sur ce point-là de faciliter la communication ? Là, on le voit entre les prescripteurs d'un côté et les utilisateurs de l'autre. C'est déjà un gros effort, un grand écart, mais qui finalement, en fait, se passe plutôt bien. Mais comment est-ce que vous pouvez aller au-delà ?
Oui, en effet, aujourd'hui, entre nos outils amants comme PrescriBIM et l'outil aval qui est PlacoBIM, on crée déjà un pont, quelque part. C'est une première approche de collaboration. Maintenant, là où on attend encore un peu plus de maturité des différents acteurs sur le sujet du BIM, c'est vraiment cette partie collaboration. Au-delà de ce que nous, on développe, c'est vraiment d'arriver à cette plateforme où nous, on peut se pluguer en tant qu'industriel et apporter nos données aux différents prescripteurs de la phase de conception jusqu'à la phase d'exécution.
Et le travail de travailler en lien avec Leica, par exemple, pour pouvoir directement intégrer dans vos logiciels leur relevé, leur nuage de points,
c'est effectivement arriver à faire toute la chaîne. Aujourd'hui, on est encore saucissonné d'une phase à l'autre, mais effectivement, c'est comme ça que je vois l'avenir de ces outils-là.
Très bien. Eh bien, merci. Avant de terminer, je vous précise en fait que vous pouvez retrouver nos différents intervenants sur leur stand pour leur poser des questions, voire des vidéos ou autres. Autodesk est donc au stand G30H31. Placo, c'est H70. Et Saint-Gobain Solutions, peut-être qu'elles y sont aussi présentées, c'est I71.
Tout à fait, c'est deux stands attenants.
D'accord. Et enfin, Vincent, qui est à l'entrée sur le stand de Leica, stand H10 et I11. Merci à tous les trois, merci de votre attention et bonne fin de conférence. Au revoir. Merci.